Chapitre 37. Crever le bitume. Ce dimanche aurait dû ressembler au précédent. Un déjeuner en famille, tous réunis, avant une balade en forêt, pour faire le plein d'énergie verte avant la grève de moelle prévue quelques semaines plus tard. Mais mercredi, Simon s'est écorché le doigt avec un jouet dans sa chambre. Il s'amusait tant avec Annabelle, heureuse de le revoir enfin. Rien de grave, le genre de petite plaie déjà oubliée le soir même. Mais pas pour un enfant en aplasie. Clotilde est partie pour l'hôpital le lendemain matin avec son fils fiévreux. Une rougeur sur le trajet de la veine au départ de la blessure et qui remontait déjà le long du bras. Elle avait préparé toutes les affaires de l'enfant. Elle savait qu'il le garderait. Il ne faudrait pas qu'il soit malade pour la greffe. Tout est programmé longtemps à l'avance dans ce genre de protocole. Ce qu'elle craignait dans la forêt est arrivé à la maison, alors qu'elle avait tout nettoyé. Quand Thomas arrive dans la chambre de Simon, il trouve un enfant en pleine forme. En quelques jours, la triple antibiothérapie est venue à bout de l'infection, et il a retrouvé ses repères. Le service, les infirmières, les médecins, les profs de sport, les clowns. Comme s'il savait qu'il n'a pas le choix, et qu'il ne sert à rien de s'apitoyer. Il le sait. Thomas se doute que la période autour de la greffe sera difficile. Physiquement pour Simon, émotionnellement pour eux. Sa moelle sera totalement détruite par la chimiothérapie. Il faut faire place nette pour accueillir la nouvelle substance saine. Mais c'est un acte risqué. Et si le donneur a un accident en se rendant à l'hôpital? Ou si le greffon est endommagé durant le transport? Ou si la moelle ne se réactive pas une fois dans les os de Simon? Que reste-t-il pour que le corps fonctionne et se défende, à part les transfusions et l'enfermement dans une chambre stérile? Clotilde fait semblant de ne pas y penser. Mais Thomas voit bien le voile de peur derrière son sourire. La zone d'ombre dans ses yeux turquoises. Ses regards dans le vide, parfois. Il y pense aussi. Tout le monde y pense. Sauf peut-être Simon. Lui s'applique à jouer, à rire, à chanter, à dessiner, à bricoler, à écouter des histoires et à en raconter. Et c'est lui qui a raison. Ce soir, il a voulu l'album de Mini Lou Pompier, parce qu'il avait entendu leur sirène en vrai un peu plus tôt dans l'après-midi. Le service d'onco-hématologie surplombe l'arrivée des urgences pédiatriques. Une façon pour Thomas de mettre du joli et du drôle sur les angoisses muettes de son petit frère. Il repart de l'hôpital 2 heures plus tard, épuisé par le temps sans cesse compté. Mais il ressort de cette chambre stérile chaque fois plus vivant. Vivant de sentir la force qui jaillit de son petit frère et qui irradie joyeusement. Il en a parlé aux infirmières. Certaines ne supportent pas de rester. Trop d'enfants meurent dans cette unité où les maladies sont toutes graves. Mais la plupart ne veulent plus repartir. Parce qu'il y a cette énergie qui circule dans les couloirs. Une autre vie. Pas celle de tous les jours qu'on oublie de fêter. Dans ce service, il y a la vie plus forte que tout. Celle qui permet à la plante de crever le bitume, au soleil de faire fondre la glace, à l'hirondelle de parcourir des milliers de kilomètres. Une vie pour laquelle on se bat. Thomas repart gonflé de ça. Il rentre, se douche, grignote un fruit et un morceau de pain, et se penche sur le devis de Brighton Bach en pensant à cette jeune femme amputée qui a choisi la vie après son accident. La vie plus forte que tout. Celle qui crève le bitume.